Hal, do you read me? Do you read me, Hal?
Affirmative, Dave. I read you.
Open the pod bay doors, Hal.
I'm sorry, Dave. I'm afraid I can't do that.
What's the problem?
I know that you and Frank were planning to disconnect me. And I'm afraid that's something I cannot allow to happen.
Vous êtes bien à l'écoute de Radio Canu et on reprend l'antenne pour une nouvelle émission. Alors cette nouvelle émission s'appelle Les Déportés du Cambrien. Ce sera donc une émission qui se fera maintenant en alternance avec l'émission Anglomorgue. Vous avez l'habitude d'écouter le dimanche soir à la même heure. Donc tous les 15 jours maintenant, Les Déportés du Cambrien avec une petite équipe qui est présente au complet ce soir.
Bonsoir.
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 Et on va donc commencer par présenter un petit peu le projet, hein Camille ?
Voilà, tout à fait. Donc lançons-nous. Salut les déportés.
Salut.
Et salut les canuts. Donc on va peut-être commencer par présenter l'hypothèse la plus ambitieuse. Mm-hmm. On avait plusieurs idées pour ce projet d'émission. Voilà, donc partons grand, quitte à revoir nos ambitions à la baisse par la suite. Hein ? Donc, on avait, au départ, le projet d'aborder des questions scientifiques de manière un peu ludique. Alors, que ce soit des questions de méthodologie, des questions de conceptualité, des questions de théorique de manière plus générale. Mais on voulait le faire en s'amusant, parce que des fois, la science, c'est un peu plombant. Donc, on voudrait, lors de cette émission, essayer de mêler le sérieux de la considération scientifique au plaisir subversif de l'imaginaire et de la fiction. Donc, chacune de nos rencontres se donnera pour objectif de broder une réflexion autour des deux items de la science et de la fiction pour opérer leur mariage.
Alors la science en général, hein, pas que la science dite dure, la science en général, la psychologie, la philosophie, les sciences littéraires, je ne sais pas si ça se dit, la psychologie, donc les neurosciences, les physiques, les sciences humaines en général.
Voilà, tout à fait. Donc on s'inscrit bien dans une idée de désenclaver ces deux modèles. Voilà. Après, donc, la petite idée ludique derrière ce projet, c'est de partir de manière générale à chaque émission autour d'une thématique tirée de l'imaginaire fantastique. Que ce soit, par exemple, en reprenant le personnage du zombie, celui du vampire, celui du voyage interstellaire, de la fin des temps apocalyptique, et j'en passe. Et donc, ça sera pour chaque fois brodé à partir de ces différentes thématiques un discours scientifique ou pseudo-scientifique, en tout cas ramener quelque chose du discours scientifique à ces sujets.
Donc, c'est un petit peu les sciences aussi fiction, c'est-à-dire aussi les sciences les fictions telles que pourraient les envisager les différentes sciences aussi, un petit peu. Oui, dans le sens, j'entends bien sûr que à partir de toutes ces thématiques que tu proposes, on puisse se saisir en fait de ces différentes thématiques et en faire une histoire à partir de chacune de ces sciences qu'on pourrait aborder au fur et à mesure de ces différentes émissions, et donc de raconter une histoire. Donc il y a quand même un petit peu l'histoire et la science-fiction en général.
Oui, tout à fait. Je pense que l'idée, c'est de se faire plaisir par le langage, c'est-à-dire de profiter aussi de ce que l'imaginaire conceptuel, c'est-à-dire qu'il y a dans les sciences un imaginaire des mots, un imaginaire des formulations, un imaginaire voilà, du langage général qui va aussi nous permettre de pouvoir faire fiction à travers tout ça. Alors, est-ce qu'on entend faire de la vulgarisation ? Oui, on entend faire de la vulgarisation. Mais pas au sens pauvre du terme, c'est-à-dire que on n'est pas à E égale MC2, on n'est pas voilà, sur un modèle comme ça qui entend simplement décrire une théorie scientifique à des personnes qui n'y connaîtraient rien.
D'ailleurs, on n'a pas forcément les compétences pour prétendre à quelques érudition, peut-être qu'on pourrait le dire. Donc, il y a aussi quand même cette modération qu'on peut déjà tout de suite donner, qu'on n'est pas non plus des grands spécialistes, que notre ambition n'est certainement pas de faire des émissions trop complexes, bien évidemment.
Voilà, tout à fait. D'ailleurs, on peut dire qu'autour de la table, certains sont effectivement universitaires. Mais d'autres sont juste voilà, des petits amateurs qui aiment bouquiner, qui aiment se rendre dans les librairies, ouvrir un bouquin, n'importe quel bouquin, celui qui nous tombe sous la main, et voilà, et après le mettre en discussion après lecture. Hein, donc voilà, du coup, c'est aussi du coup redonner. Une petite valeur à ces expériences riches de lecture qui nous traversent tous et qu'on a envie de faire partager.
D'ailleurs, à ce sujet, on avait envisagé, et on va commencer cette première émission par un petit rapport en fin d'émission d'une fiction qui nous a touchés à un moment donné, et notamment dans cette émission qui va commencer bientôt, lorsqu'on aura fini cette introduction. On commencera par un premier thème qu'on vous présentera tout à l'heure. Et on avait envisagé justement à la fin de l'émission, si on a le temps, mais là, notre modératrice Anne-Sophie nous dira au fur et à mesure de l'émission, si on n'est pas trop bavard, on avait envisagé donc de faire un petit retour de fiction d'un ouvrage, d'un film, d'une musique, d'un n'importe quoi qui puisse être en lien avec la thématique qu'on aura choisie pour cette émission.
Hein? Oui. C'était bien le.
Vous
bien
êtes
le
d'accord,
projet.
Hein?
Ça fait partie.
Ok.
Ça me rassure.
J'écoutais attentivement, mais je suis tout à fait d'accord.
D'accord.
C'est ça. Okay.
Mais alors certainement que il y aurait à revenir sur pendant cette introduction en fait sur la question des termes et des rapports entre les termes entre science et fiction, parce que ça va pas de soi. Ça va pas de soi d'aborder une problématique scientifique au travers d'un motif imaginaire ou fictionnel. Donc nous, comment nous est venue cette idée et pourquoi on a envie de la travailler ? Donc je pense qu'il y a en fait dans l'histoire des sciences une idéologie qui a prévalu pendant très très longtemps, qui s'appelle, enfin qu'on pourrait appeler en fait celle du grand partage. Hein, c'est-à-dire que d'un côté, on va se dire qu'il y a une rationalité pure et dure, et tous les autres discours qui peuvent exister autour, qui soient les discours de la poésie, les discours de la fiction romanesque, mais ça peut être aussi des pratiques médicales alternatives, des discours aussi ou des pratiques militantes, des pratiques discursives autour de la politique, etc. Du coup, sortent complètement du domaine scientifique, ou alors n'y pénètrent qu'à la condition d'être enrégimenté sous un certain discours, sous une certaine rationalité. Ah, je vous perds là déjà.
On avait promis aux auditrices et auditeurs quand même qu'on n'allait pas faire trop compliqué. Hein, mais...
Perds-nous.
Mais bon, du coup, il y a quand même certainement, c'est-à-dire qu'il y a, voilà, par exemple, c'est-à-dire qu'on a cherché pendant longtemps à opposer le discours, par exemple, de la physique ou des mathématiques, voilà, un discours plus général, fictionnel, Et voilà. Et donc, du coup, ce qu'on va essayer de faire, hein, c'est d'opérer autre chose que ce grand partage. C'est-à-dire qu'on va essayer de se faire rencontrer science et poésie, science et art pictural, science et cinéma, et d'essayer de voir, en fait, qu'est-ce que la fiction, en fait, peut faire dire à la science, et qu'est-ce que la science, à l'inverse, peut faire dire à la fiction.
Oui, oui, tout à fait d'accord. C'est vrai que ça rejoint cette idée générale qu'on avait de science-fiction, parce que c'est vrai qu'à un moment donné a été question d'aborder cette émission science-fiction, parce qu'effectivement, ce qui nous intéressait, donc comme je le disais tout à l'heure, c'était de raconter comment ces différentes sciences vont raconter des histoires. Et c'est vrai que l'originalité peut-être de notre petit groupe là qu'on vient de former, c'est d'avoir des approches disciplinaires très très différentes, des sciences humaines, des sciences dures, littéraires, etc. Et ce qu'on trouvait intéressant, mais ce n'est qu'une redite de ce que tu viens de dire, hein, c'était que chacun se saisisse d'un thème pour le raconter en fait avec les mots, avec les connaissances qu'il ou elle a, et de voir en combien en fait ces différentes approches peuvent se confronter, se réunir, probablement parfois elles seront très distantes, mais après tout c'est ça l'intérêt aussi des échanges scientifiques en général. Moi, ce qui m'intéressera par exemple dans cette émission, c'est de venir en fait avec l'approche qui est celle de ma formation, et notamment en combien en fait, parce que c'est les neurosciences qui m'intéresseront davantage, en combien en fait ces neurosciences peuvent s'incorporer justement dans des thématiques variées comme le robot, comme le zombie, comme la catastrophe et comme plein d'autres choses. Et ce qui m'intéressait dans cette émission, c'était de voir en combien en fait, les neurosciences pouvaient être mangées à toutes les sauces, et comment justement on pouvait critiquer en fait cette approche un peu parfois trop magistrale, on va dire, des neurosciences qui vont tout justifier. Donc mon approche sera celle de la critique de ces neurosciences qui soi-disant pourront apporter des réponses plutôt à beaucoup de questions, mais aussi de voir en fait que à partir de ces neurosciences, on peut avoir aussi une approche interdisciplinaire. Ça sera plutôt ça le côté positif, c'est-à-dire en combien en fait on peut rapprocher des concepts des neurosciences à ceux de la philosophie, de la physique, de la cybernétique, etc., etc. Alors peut-être vous voulez compléter aussi les non?
Si.
Sur les approches, je sais pas, ou sinon on enchaîne.
Hein. Si, non mais moi je peux prendre la suite. Hein. Ouais. Moi pour ma part, ce sera, je suis bien d'accord avec tout ce que vous avez dit.
D'accord. Donc c'est Sonia qui parle.
Ah pardon. Oui, Sonia. Voilà. Donc moi je le verrai plus. Je pense sous l'angle plus social, peut-être plus psychologique, plus. Peut-être un peu littéraire aussi, voilà. À partir d'un thème, moi je bosse bien à partir d'un thème, donc voilà, et avec aussi des invités et sans doute des interviews à venir, selon le thème que l'on choisira ensemble. Voilà.
Ben, tu veux dire quelque chose ?
Oui, ben moi c'est un peu comme Sonia, ça va dépendre des thèmes, mes interventions, je vais essayer de parler de littérature, de cinéma, de reggae quand j'en aurai l'occasion, et... tout ce qui me passera par la tête au moment de choisir les thèmes.
Ok. Bah, moi, peut-être juste pour repartir sur cette idée du grand partage dont il faudrait sortir, qui m'intéresse aussi et qui justement permet d'en finir avec cette opposition entre les amateurs de sciences et de littérature, d'avec les scientifiques ou les experts du savoir. En fait, ce qui m'intéresse avec cette idée... d'articulation entre science et fiction, c'est de se demander qu'est-ce que ça peut vouloir dire que de ne pas se plier à l'ordre du savoir, en fait, qui me semble être un ordre qui s'impose aujourd'hui dans plein de domaines du monde, enfin de nos vies quotidiennes. Donc du coup, voilà, comment est-ce qu'on peut ne pas se plier à ce régime-là, sachant que... en posant l'intérêt de la fiction, il ne s'agit pas non plus de sortir... De, de tout ça, enfin d'être de l'autre côté du savoir ou d'être ailleurs que dans le savoir, mais du coup plutôt d'interroger qu'est-ce que ça veut dire connaître sous un régime qui serait celui de la fiction. Et donc on comprend du coup, enfin ce qui m'intéresse là aussi, c'est comment est-ce que nos réflexions vont excéder en fait ce qui s'appelle science-fiction. Enfin, on n'est pas seulement dans une histoire de science-fiction, mais dans une interrogation quant à ce que peut la fiction. Et m'intéresse en particulier la proposition que fait une philosophe des sciences, puisque je m'intéresse pas mal à la philosophie des sciences et à la sociologie des sciences. Cette philosophe des sciences qui s'appelle Isabel Stengers dit dis-moi ce que tu racontes, je te dirai à la construction de quoi tu participes. Et il me semble qu'il y a là effectivement un projet politique fort pour notre émission. Voilà ce que j'avais envie de partager avec
tout
vous.
Tout à fait, tout à fait.
Aujourd'hui, et peut-être qu'on peut donc passer à la suite.
Eh ben oui, mais la suite.
Ah non,
mais moi, je veux bien me présenter.
T'as tellement parlé déjà. Bon, allez, 10 secondes.
10 secondes. Mais non, mais c'est pas possible. Parce que justement, moi, j'ai envie de faire partager avec vous mes petits élans baroques. Voilà, c'est-à-dire que j'aimerais bien profiter en fait de cette petite heure d'émission dominicale en fait pour vous proposer un petit védoutisme radiophonique. Alors, le védoutisme, qu'est-ce que c'est?
J'ai mal à la tête.
Donc, le védoutisme, en fait, c'est un courant pictural qui est apparu pour la première fois au XVIe siècle. Et c'était la première fois à l'époque qu'on sortait un petit peu en fait de l'art du portrait pour s'intéresser à l'art du paysage et de la représentation des paysages, notamment des paysages urbains. Et du coup, c'est un art qui a commencé à apparaître. C'était des œuvres de commande la plupart du temps, et en fait, c'était les bourgeois qui commençaient à l'époque déjà à faire du tourisme à travers toute l'Europe. Et ils avaient envie de rapporter dans leur petite maison un souvenir de leur fabuleux voyage à Venise, à Rome, à Londres, à Paris. Et du coup, les peintres ont commencé à offrir des espèces de grandes vues panoramiques. Et donc, moi aussi, j'aimerais bien offrir une grande vue panoramique, une vue panoramique sur... une vue panoramique sur le monde de la... sur le monde de la Renaissance, et notamment sur la philosophie de la Renaissance. Et donc, quel thème, quel lien avec cette question de la science-fiction? Ce qui est intéressant dans la philosophie de la Renaissance, c'est qu'elle aborde des questions scientifiques d'une manière extrêmement spécifique et particulière. C'est-à-dire qu'on est encore loin de la physique ou de la chimie telle qu'on la connaît. C'est-à-dire qu'on est dans une époque où voilà, l'astronomie s'appelle astrologie, ou la chimie s'appelle alchimie, je me perds. Mais voilà. Et donc, voilà. Donc, j'avais 10 secondes et j'ai largement débordé. Donc, je passe la main.
Non, mais du coup,
en fait, on va enchaîner exactement. Oui, on va enchaîner directement à quelque chose que tu nous as préparé. Ce que je suggère, c'est qu'on lance en fait cette petite surprise qui dure 7 minutes, je crois, à peu près. Donc, c'est un montage où on entend Bachelard. Je peux déjà dire ça. Oui, et puis peut-être que tu pourras nous présenter un petit peu après, ou tu préférerais peut-être le présenter tout de suite.
Non, je le présenterai après. Écoutons-le. Ouais.
Allez, alors allons-y. Thank you.
La philosophie traditionnelle s'occupe communément de l'homme qui pense, comme si l'homme trouvait toute sa substance, tout son être dans la pensée. La philosophie oublie souvent qu'avant la pensée, il y a le songe, qu'avant les idées claires et stables, il y a les images qui brillent et qui passent. Pris dans son intégralité, l'homme est un être qui non seulement pense, mais qui d'abord imagine. Un être qui, éveillé, est assailli par un monde d'images précises et qui, endormi, rêve dans une pénombre où se meuvent des formes inachevées, des femmes qui se déplacent sans loi, des formes qui se déforment sans fin. Pour une détermination complète de l'être humain, il faut donc faire le total d'un être nocturne et d'un être diurne. Il faut essayer de trouver les dynamismes qui vont d'un pôle à l'autre, entre songe et pensée. Si l'on se donne ainsi une certaine largeur d'examen, on se rend vite compte que la nuit et le jour, dans l'âme humaine, ne sont pas des éléments logiques qui s'opposent absolument. Oui, nous connaissons tous cette zone moyenne où les songes nourrissent nos pensées, où nos pensées éclairent nos songes. Nous voulons montrer que le dormeur éveillé, que le rêveur lucide réalise une synthèse de la réflexion et de l'imagination. Alors, la rêverie n'est pas un abandon. La rêverie est active. La rêverie prépare des forces et des pensées. Pour entrer dans ces vues philosophiques, il suffit de donner à l'imagination humaine sa pleine valeur, sa valeur principielle. Trop souvent, l'imagination a été considérée comme une puissance secondaire, une occasion de dérèglement, un moyen d'évasion. On n'en fait pas assez nettement ce qu'elle est, la fonction dynamique majeure du psychisme humain. En homme normal, on aime à mettre au premier plan la fonction du réel. Mais comment un homme ferait-il une œuvre s'il ne s'exerce pas, s'il ne sent pas en lui ce qu'on pourrait appeler la fonction de possibilité. Pour agir, il faut d'abord imaginer. Il y a un sens à parler d'une fonction de l'irréel par laquelle l'homme méditant, le dormeur éveillé, s'en va en quête des possibilités d'une œuvre nouvelle. Un grand mathématicien dans sa méditation. Voyez un Leibniz se donnant corps et âme à la réflexion. Leibniz travaille de jour. Il vit dans une chambre sombre. À la fenêtre, il y a de petits carreaux en verre épais, en verre bombé, et Leibniz est assis. Quand l'esprit se tend trop, quand l'esprit perd sa fraîcheur, son mordant, Leibniz s'accoutume de prendre un court sommeil, un sommeil de quelques minutes, dans son fauteuil. Mais, nous dit-il, ce sommeil est si profond que l'esprit en sort tout neuf, à nouveau aiguisé. La figure géométrique, la courbe et ses tangentes sont devenues idées pures. Elle est devenue une vérité résumée dans un rapport de quantité infinitésimale. Oui, l'image trop concrète que le mathématicien a emportée dans un sommeil momentané est devenue, dans l'instant du réveil, une idée claire. Leibniz, pour sortir du sommeil absolu, est un esprit qui connaît le réveil absolu. Il bénéficie à son gré du rythme du nocturne et du diurne dans le court espace d'un tout petit quart d'heure. C'est au niveau de l'esprit lui-même, qu'il vit le sommeil et le réveil. Le corps n'y est pour rien. Il est esprit naissant, intelligence naissante. Il est une pensée qui vient de s'assurer par le sommeil profond de n'avoir point, de n'avoir plus d'idées préconçues. C'est pour nous trop souvent se souvenir d'anciennes pensées. C'est trop souvent, chez un homme cultivé, ruminer sa culture. Dans l'ordre de la réflexion, il semble que le dormeur éveillé doive nous donner des leçons d'origine d'esprit, comme il nous donnait, dans l'ordre de l'imagination, des leçons d'origine du langage. En fait, le dormeur éveillé est un technicien du réveil maximum, du réveil total, du repos d'esprit le plus condensé. Le dormeur éveillé fait surgir l'activité d'esprit la plus vive. La nuit éphémère permet à l'esprit de s'occuper de soi-même, d'être tout entier attentif à une idée de valeur, vivant vraiment pour la valeur d'une idée.
Vous ne rêvez pas, vous êtes bien à l'écoute de Radio Canu et nous sommes en train d'écouter. Je ne comprends pas ce que tu me dis, mais enfin, on est à l'émission des déportés du Cambrien.
Toujours.
Et donc du coup, excusez-moi, il est difficile de gérer à la fois la parole et la vision. C'est bien les déportés du Cambrien. On vient de s'écouter donc Bachelard. Et Camille, tu voulais peut-être nous faire une petite explication de texte,
oui,
peut-être commenter un petit peu
vite fait,
pourquoi
très rapidement. Donc voilà, c'était une voix déjà, bon je pense que les auditeurs l'auront entendu, c'est une voix qui nous vient du passé, et déjà ça c'est intéressant, c'est-à-dire que Bachelard, voilà, il a un accent fortement marqué, et on comprend pas tout à fait toujours tout ce qu'il dit, il dit les, au lieu de dire les formes, il dit les fommes, voilà, il dit plein de choses comme ça, et du coup ce qui est intéressant dans cette intervention, c'est aussi le cadre qu'il propose, c'est-à-dire que l'émission, enfin, c'est une série d'interventions radiophoniques qu'il a fait dans le courant de l'année 1949. Et son idée, en fait, à l'époque, c'était de proposer de guérir l'insomnie au moyen de la rêverie suscitée par la radio. Mmh. Et donc, il cherchait comment radio diffuser les principes de la rêverie. Et je pense qu'on est finalement pas très très loin de cette proposition-là au déporté du Cambrien. Enfin, en tout cas, on va essayer de l'être. Je sais pas si on vous fait rêver, mais bon.
Ouais, c'est peut-être trop demandé. Ouais,
oui, peut-être.
Non, mais ça stimule l'imaginaire quand même.
Ouais, tout à fait.
Voilà. Après, ce qu'on peut remarquer par rapport à Bachelard, donc, c'est que, donc, cette intervention-là, elle intervient, en fait, à un moment charnière, en fait, de son cheminement philosophique. Il faut savoir que, à l'initial, il était ingénieur et mathématicien de formation, ce gaillard. Et, qu'il a pendant longtemps enseigné, en fait, les sciences dans le secondaire. Et qu'il a entamé ses études de philosophie très très tard, à l'âge de 35 ans. Et donc c'est oui 35 ans ouais. Mais c'était un gars avec de la ressource hein, et donc les premiers ouvrages qu'il a publiés rédigés donc étaient extrêmement influencés par son parcours scientifique antérieur. Et voilà, en témoigne par exemple sa thèse qu'il soutient en 1927 sur la question de la propagation thermique des solides. Je saurais absolument pas vous dire de quoi il s'agit, je ne l'ai pas lu et comme ça ne me dit rien. Peu importe, ce qui est intéressant c'est qu'il enchaîne après ça sur la rédaction d'ouvrages toujours consacrés à l'épistémologie des sciences, à la manière en fait dont les sciences se construisent. Et ça jusqu'en 1940 où tout d'un coup, eh ben bam, il retourne sa veste le Gaston et il écrit un premier essai sur l'Autréamont. Et 2 ans plus tard, il écrit un autre essai intitulé « L'eau et les rêves ». Donc il se fait pas critique littéraire hein, à l'époque, mais il se fait bien poète. C'est-à-dire que le scientifique, en tout cas l'homme intéressé par les sciences, tout d'un coup voilà, dérive le long des fleuves de la poésie et de l'imaginaire poétique. Mais la question scientifique n'est pas derrière lui. Elle continue à l'accompagner très activement. Et si la rêverie poétique l'intéresse au plus haut point, lui en tant que scientifique, c'est dans la mesure où la découverte scientifique, selon lui, ne dérive pas d'abord du besoin ou de la nécessité, mais bien du désir. Ainsi, donc je vais faire une citation, hein, dans L'eau et les rêves, il affirme « On veut toujours que l'homme préhistorique ait résolu intelligemment le problème de sa subsistance. Or, l'utilité de naviguer n'est pas suffisamment claire pour déterminer l'homme préhistorique à creuser un canot. Aucune utilité ne peut légitimer le risque immense de partir sur les flots. Pour affronter la navigation, il faut des intérêts puissants. Or, les véritables intérêts puissants sont les intérêts chimériques. » Ce sont les intérêts qu'on rêve, ce ne sont pas ceux qu'on calcule, ce sont les intérêts fabuleux. Donc en résumé, hein, selon Gaston, l'homme est une création du désir et pas une création du besoin. Et c'est ce qu'il ne cesse d'affirmer tout au long de son intervention radiophonique.
Alors moi j'avais quand même peut-être une petite question par rapport à nos réflexions au déporté du Cambrien. Et à ce que tu avais posé tout à l'heure vraiment en début, qui était cette idée de sortir du grand partage. Et en fait, je me demandais quand même si Gaston, comme tu l'appelles, n'était pas un peu titillé par le fait de rejouer ou de redoubler ce grand partage. Et qu'en fait, sa proposition, c'était un peu ou l'un ou l'autre, mais pas une articulation entre poésie et science. Enfin, dans ce qu'il dit à la radio ou dans ce qu'on l'a entendu dire, il y a cette idée que la rêverie ou le songe opère une rupture dans le processus réflexif ou rationnel Et du coup, bah, j'avais le sentiment que nous, c'était un peu autre chose que ça qu'on visait. C'est-à-dire, pas tellement en quoi le songe, la rêverie, la littérature ou la fiction seraient une rupture dans l'ordre rationnel. Mais est-ce qu'on n'allait pas pouvoir explorer ou inventer des formes de continuité ? Mais c'était une petite réflexion en passant.
Waouh ! C'est chouette.
Et même, moi, je dis qu'on a bien mérité une petite musique.
Hein, une petite pause
musicale. Une petite
musicale.
Pause musicale. Ouais. Et alors, je pense que je vais te laisser présenter ce groupe, puisque c'est toi qui nous a proposé cette chanson. Le titre est Contagion.
Ah, Contagion, bah, c'est un petit groupe, je crois, de punk français. Je suis pas certain d'où ils viennent. Je crois qu'ils sont de Rennes à la base et ils s'appellent À Trois dans les WC.
Eh ben c'est parti. on va y aller à trois. vous êtes bien à l'écoute de Radio Canu et on est à l'émission Les Déportés du Cambrien, nouvelle émission qui commence aujourd'hui. Et après une présentation de cette émission et de notre projet là pour quelques mois, on espère, on va commencer le premier thème, puisque l'idée un petit peu de cette émission, c'est d'aborder un thème et de voir ce que ces différentes sciences peuvent nous raconter comme histoire. Et donc ce premier thème,
alors, c'est quoi ? Ce premier thème qu'on a choisi, un peu sous l'impulsion de Sonia, parce qu'elle avait envie de parler de ça apparemment, donc ce sera Adjetet. Pour cette émission-là, et pour la suivante sans doute, et peut-être encore celle d'après, vu qu'on a tendance à s'étaler un petit peu, donc le thème sera habité. Comme habiter le contraire de désert, comme habitant, comme l'habitat, comme habiter un endroit, habiter le monde, comme habituer aussi les habitudes. J'habite seul avec maman dans un très vieil appartement, ça c'est Aznavour. J'habite une caverne, une cabane, une hutte, une tente, un tonneau, une yourte, une maison en dur, une roulotte, un palais. Un vrai palais avec ses ors, ses marbres, ses pièces démesurées, hautes de plafond, mais aussi un palais mental, un palais de mémoire. Un espace dans mon imagination, dans ma mémoire, j'habite seul ou en coloc. Je partage un ancien corps de ferme, un hameau abandonné et réhabilité avec d'autres personnes, seul, en couple ou en famille. J'habite chez mon chien, et c'est lui qui me dit dans quelle pièce j'ai le droit d'entrer. J'habite dans le métro, dans ma voiture, au camping, un peu partout, un peu nulle part. Viens chez moi, j'habite chez une copine, c'est Renaud. J'habite là où je peux, où le monde m'a jeté, où je l'ai décidé. C'est parce que j'ai peur du monde que je me réfugie dans une caverne, et à force de me terrer dans ma caverne, j'ai de plus en plus peur du reste du monde. L'endroit où je vis conditionne ma vision du monde, et à l'inverse, c'est parce que j'ai certaines envies, des prérogatives que je décide du lieu où je vis. On prend au début une caverne, une cabane, une hutte, une tente, un tonneau, une yourte, une maison en dur, une roulotte, un palais, une cité, une maison en banlieue, à la campagne. Dans tous les cas, j'habite une partie du monde et le monde m'habite. Je suis habité. J'ai des choses qui résonnent en moi, qui remplissent la coquille qui me sert de tête. Une passion, des rêves, de la musique, des formes plastiques, des couleurs. Et je décide de m'y consacrer à part entière. Ou bien je leur laisse une place de choix sur mon temps libre ou encore je choisis de les faire taire, ces voix. Je suis plein de voix, je suis plein de voix, c'est mieux sec. Je suis habité par mes passions, par Dieu, ou bien un être maléfique, un double qui prend possession de ma vie à mon insu, à un moment où je ne suis plus là. Mes habitudes font que mon corps peut se passer de moi et fonctionner tout seul. Quand je rêvasse et que je continue pourtant à marcher, à pédaler, à conduire ma voiture, quand je rentre chez moi complètement bourré, que je me réveille le matin dans mon lit sans aucun souvenir, mais que la porte est tout de même verrouillée. C'est mon corps qui a pris le relais. Mon double, ma tête était ailleurs, je n'étais que machine, coquille, vidée, un grand château triste traversé de toutes parts par tous les vents. Alors on monte un peu le niveau, c'est Aragon.
Ouh.
Et ouais, je sais. Et qui m'habitait pendant tout ce temps, à double ami ou ennemi, moi ou un autre, et où j'étais. Et d'ailleurs, y suis-je en ce moment? Où suis-je? Est-ce que c'est habité ici? Est-ce qu'il y a quelqu'un? Les déportés, vous êtes là, il y a quelqu'un?
Ouais.
Et on passe la parole à Sonia.
Eh oui, oui, oui. Bah merci pour cette intro, Ben, sur l'habité. Effectivement, j'étais dans la majorité de ceux qui l'avaient choisi, mais je n'étais pas toute seule.
Non, non,
c'est bien, il y avait moi aussi.
Ouais, il y avait un point de convergence autour de l'habité. Alors, cette intro, c'est parfait parce que ça va nous permettre un petit détour, un gros détour sémantique, en fait, qui va éclairer le lien de l'habité à l'habitude, ce par quoi tu as terminé dans ton intro. En passant probablement par le logement, l'abri, l'habitat. On va voir que, du point de vue sémantique, l'habiter, ça recoupe quand même pratiquement tous les champs des sciences humaines. Pratiquement. Enfin, j'en ai pas vu dès qu'il avait été oublié.
Tout à fait. Mmh.
S'intéresser à l'habiter, c'est s'intéresser logiquement à l'habitat. Donc ça nous fait... Ça nous fait, par le biais de l'habitat, beaucoup d'angles qu'on peut explorer, avec un invariant toutefois, c'est qu'habiter, en fait, ce n'est pas vraiment l'habitat. Faut que je parle dedans ?
Oui, juste le micro, merci. Excuse-moi. Donc l'habitat.
Ouais, j'en étais là.
Donc, on t'écoute.
C'est habiter à un lieu, quel que soit. Alors habiter, c'est pouvoir habiter. C'est habiter à un lieu, quel que soit ses murs. C'est pouvoir se trouver familier à une atmosphère réelle ou imaginaire, qui n'appartient qu'à soi et qui se déploie quel que soit le lieu. Voilà. L'habiter, c'est assez complexe et au-delà de l'acception du logement, du refuge et de l'abri. Il y a un consensus d'ailleurs chez les sociologues qui s'entendent tous à dire l'homme, à la différence de l'animal,
ne s'abrite pas, il habite.
Ah, tout à fait.
Et pour rejoindre la philosophie, c'est Heidegger, qui n'est pas toujours fréquentable, mais là il l'était. d'en bâtir, habiter, penser dans sa conférence, qui lui, je vais vous le citer un peu plus loin parce que c'était quand même assez intéressant. Il mettait déjà en lien et à l'évidence l'homme et l'habitat et l'habiter. Donc de sa langue maternelle, il est allemand, donc il reprenait le terme Bauen. B-A-U-E-N. Bon, je suis pas.
Bauen.
Ouais, merci Anne, soit je comptais sur toi.
Pas de quoi.
Bauen. Donc, qui veut dire habiter. Bon, je suis pas du tout germanophone.
Je te ferai pour les autres.
D'accord. Donc, il pense l'habiter comme condition de l'homme. Donc, à l'origine, je vous le cite, à l'origine, Bauen veut dire habiter. Donc, le vieux mot. Alors, c'est donc un vieux mot, Bauen. Ouais. Auquel se rattache Bin. Donc, qui nous répond je suis, ich bin, ça je sais.
Parfait.
Voilà. Et qui voudrait dire ces deux contractions, j'habite. Voilà. La façon dont tu es et dont je suis, la manière dont nous autres hommes sur Terre, et le Bauen, l'habitation. Être homme veut dire être sur Terre comme mortel, c'est-à-dire habiter.
Oui, donc c'est fondamental déjà.
Ouais.
C'est je suis quoi.
Ouais, j'ai trouvé que c'était fort. On y était.
C'est j'habite donc je suis.
Un
c'est
peu.
Ça.
Ouais. Ouais, ouais. Je savais pas si c'était un raccourci ça, mais c'est ça. Ouais. Moi je trouvais que ça ressemblait bien à ça. Alors, la définition du terme habiter, elle est vachement riche en fait, parce qu'elle nous apprend que de tout temps quasi. Habiter, en fait, a un double sens. Donc, dans son emploi transitif, c'est occuper habituellement un lieu. Offugere, c'est occuper quelqu'un. Être dans, les synonymes, c'est hanter, obséder, posséder. Voilà. Et dans son emploi intransitif, donc là, on va refaire de la grammaire, c'est avoir sa demeure dans un lieu, habiter avec quelqu'un, vivre sous le même toit. Donc, on voit qu'il y a des formes de retournement passif-actif, rien que dans le verbe. Donc d'habiter, on passe à être habité. Ce qui est intéressant, c'est que dans le même esprit, on a un autre terme qui est familier aussi, c'est demeurer. Donc dans demeurer, ça comporte deux propositions, demeurer ou être demeuré.
Je vois où tu veux venir.
Non, non, non. Donc demeurer, rester dans un lieu, habiter un lieu, mais aussi continuer à être. Je demeure la même malgré cette épreuve. Que j'ai bientôt plus de souffle, pardon. Et puis, il y a être demeuré, un sujet intellectuellement retardé. Celui-là est un demeuré. Il restera accroché à sa demeure. Laquelle ? On ne sait pas.
Ouais. La sienne ?
Je ne sais pas. On va laisser ouvert à l'imaginaire. Et quand on s'intéresse à l'apport étymologique, c'est encore plus complexe, parce que là, on va dans des racines latines, donc... Habere, qui a produit entre autres habitare, habitus, habitudo, habitatio, habitaculum, entre autres. Hein. Je vous dis que ça. Donc autant dire que c'est riche. Hein. Donc littéralement, habitare provient, habiter provient d'habitare, qui signifie avoir souvent, habité, occupé. Là, c'est la partie un petit peu artuchante, mais bon. Habitare se lit fréquemment avec habere, qui est la racine étymologique majeure dans le sens général et de tenir, se tenir. C'est un peu pénible, mais en fait, c'est hyper intéressant quand même. Non, mais c'est nécessaire. C'est nécessaire. Donc, habere au sens propre, c'est avoir, avoir à sa possession, garder, tenir, porter un vêtement, habiter, se tenir quelque part.
Oui, donc c'est habillé aussi. Donc.
Oui,
c'est
voilà.
Ça.
Ouais, c'est
l'habit.
Oui,
oui,
on y arrive.
On
ouais.
y arrive.
Ouais. Donc les dérivés des racines principales, que sont habérer et habitare, est à l'origine de deux substantifs qui suscitent, a priori, tout notre intérêt. Ouais. Si, si, je vous le jure. Donc habitation, qui signifie habitation, action d'habiter, logement, et habitaculum, dont le sens propre est demeurer, et demeure, pardon, et le sens figuré. Et demeure de l'âme, c'est-à-dire le corps. Alors, toujours sur notre terrain étymologique, habere et habitare sont aussi à l'origine des synonymes latins habitus et habitudo. Donc, en latin, habitus participe de Alors, avéré, mais oubéou, en fait. Ça s'entend en participe, mais ça, c'est si vous êtes vraiment calé en grammaire. Mais qui veut nous dire bien portant, bien en chair. Habitus en substantif, c'est une manière d'être. C'est l'aspect extérieur, c'est le dehors, c'est la conformation physique, l'attitude, la mise, la tenue, le vêtement, le costume. Voilà. Et habitus possède une triple destinée, c'est habit, habitude et habitus. Là, on a trois... Je ne sais plus comment on dit. C'est d'abord... Ouais, c'est d'abord l'origine latine de deux termes, habit et habitude. L'habitude est définie comme suit, manière de se comporter, d'agir, d'agir d'un point de vue individuel. Mais c'est aussi l'usage d'un lieu fréquemment répété. Les liens entre habitude et habitus sont source de nombreux écrits philosophiques. Merleau-Ponty, pour ne citer que lui, qui plus qu'à la différenciation habitus-habitude, à laquelle tenaient certains auteurs, pardon, mais il me parle,
certains auteurs, désorganisés.
Oui, c'est surtout intéressé à la distinction habitude-coutume. Merleau-Ponty parle des habitus du corps, sans distinction avec les habitudes, et dit que l'habitude, elle n'est ni une connaissance, ni un automatisme, c'est un savoir qu'on a dans les mains. Habitude et habit, coutume et costume, deux couples inséparables, comme l'atteste l'étymologie. Habit est le seul de la famille lexicale à provenir de la famille étymologique dont fait partie habitus. Je suis en retard ou...
Ouais. T'inquiète.
Je suis carrément à la voix. Pardon.
Non, on n'est pas pressé. On est là justement pour se laisser porter par les mots, par la rêverie. On t'écoute. Continue.
Non, mais c'est intéressant de voir toutes ces déclinaisons, en fait, et de voir que c'est toujours une couche, quoi. Il y a souvent une couche. Et puis, il y a l'être, quand même, que ça part de l'être, le centre. Et puis, il y a l'habit, et puis, il y a l'habitation. Mais je te laisse continuer, pardon.
Sauf si tu veux que je finisse.
Non, c'est vrai. Non, il y a la causerie derrière qui attend.
Ainsi, habit prend de habitus le sens de vêtements, costumes, tenues et manières d'être. L'habit conserve des liens avec l'habitus et l'habitude. Malgré l'emploi usuel très différencié de ces mots, habit, habitus et habitude appartiennent bel et bien à la même famille sémantique. Famille ancienne de laquelle relève également habiter. Alors, l'habitus... alors c'est vrai qu'il constitue l'origine des mots habit et habitude, donc il est déjà très intéressant pour ça. Il s'est intégré dans la langue française seulement en 1586. On peut dire que c'est pas tôt, mais c'est pas tôt quand même. Voilà. Habitus comporte deux définitions qui sont et habitus, là aussi il est très intéressant, c'est qu'il a deux définitions, lui. Une médicale et une sociologique. La philosophie, elle s'y est de tout temps intéressée en fait à l'habitus, depuis Aristote, donc pour moi ça correspond à tout temps, hein. Voilà. Donc en sociologie, l'habitus, c'est la manière d'être d'un individu qui est lié à un groupe social et qui se manifeste notamment dans l'apparence physique. Vêtements, maintien, voix. C'est Pierre Bourdieu qui a récupéré le concept de l'habitus en 1960. Alors, je ne vais pas vous refaire toute la reprise du concept, puisqu'il est, il est 21h53, donc je ne vais pas avoir le temps, ce qui est dommage.
Mais on en parlera là une prochaine fois.
On pourra en parler une prochaine fois. Et voilà, donc il y avait tout l'intérêt de Pierre Bourdieu, quand même, qu'on développera du coup plus longuement.
Sur le concept de l'habitude. Et puis, Eric sera content d'Angle Mort.
Oui, c'est assez drôle. T'as vu, c'était une petite dédicace. Ouais. Voilà, et puis il y avait tout aussi l'habitus médical qui sert plus à se rendre compte de comment le sujet... En fait, avec ses symptômes, comment il va bien ou pas. Enfin, comment il va pas très bien en général. Voilà. Là, je fais vite, c'est pour ça que je bafouille un peu.
Non, mais du coup, il y a l'habité. On sent bien aussi l'habité. Je suis habité. Parce que je suis habité par des voix. Je suis habité par autre chose. On voit bien aussi l'écart, mais au contraire, la translation qu'on peut faire très rapidement dans le milieu médical et celui de la folie.
Eh bien, bien sûr, c'était exactement là où je voulais en arriver. Parce que, juste pour finir quand même, la maladie, en fait, on l'a définie par donc être malade. C'est male habitus, et c'est être en mauvais état, ou avoir le mal dans l'habitat. Donc, c'est être mal habité. Donc, c'est rigolo. Non, c'est quand même curieux. Voilà, et donc, ça me permettait d'aller du côté de être habité, être malade. Voilà.
Donc du coup, ça nous ouvre plein de perspectives, effectivement, les perspectives d'habiter, de les déportés qui sont habités, peut-être. Je crois que tu voudrais...
Tout à fait, mais du coup, comme ça, de manière très improvisée, Sonia, je te proposerais bien qu'on reparte sur le début de l'émission prochaine, mm-hmm. sur un regard croisé entre l'habitus et Bourdieu, et moi, j'aimerais bien qu'on le mette... qu'on se mette un petit peu ensemble, et moi je t'aiderai à travailler autour de la coutume chez Montaigne. Et peut-être qu'on pourra essayer de croiser comme ça quelque chose.
Alors d'accord, mais quand même, il y a plein de choses qu'on n'a pas eu le temps de dire ce soir. Hein, donc il faudra les dire aussi.
Tout à fait.
Et du coup, effectivement, alors ce soir, on avait prévu d'autres choses, notamment Ben qui devait nous parler des ghettos.
Grave, je reviendrai exprès.
Et donc, mais c'est vrai que aussi, toi aussi, ça ouvre toutes ces perspectives d'habiter, de comment les gens qui sont habités, qui sont schizophrènes, qui ont des hallucinations, vont aussi dans l'habitation.
Alors on va aller de ce côté-là,
donc
mais on ira.
Ouais,
c'est très intéressant. Mais ce sera pas que du pathologique, ce sera aussi interroger les différentes façons d'habiter actuellement, ouais. Les habitats groupés.
Donc l'habitation collective, donc c'est ça qui est un petit peu.
Oui,
peut-être
oui.
Oui, un pont aussi avec la schizophrénie, d'une certaine façon, on ne sait plus où on est. Au contraire, c'est une nouvelle forme d'habitation.
Voilà, on ne va pas aller que du côté pathologique, même si c'est très tentant.
Voilà. Mais il y a aussi plein d'autres choses en fait, qu'on voulait aborder, notamment comment ça s'appelle ces choses dans la Renaissance là,
ces choses dans la Renaissance s'appellent les palais de mémoire.
Voilà, les palais de mémoire, pardon. Et puis, on avait même prévu de parler de neuro-architecture, donc on va aller quand même un peu loin. Donc, on va essayer d'organiser tout ça quand même pour la prochaine émission, parce que ça fait un petit peu comme ça, patchwork. Mais je pense que ça nous fait du coup pas mal de choses à voir.
Ouais.
Ouais, c'est bien.
Ah bah oui. Hein,
on reviendra sur la science-fiction quand même à un moment donné. Là, on n'a pas eu la petite page culturelle. Bon, tant pis. On vous en parlera la prochaine
fois.
La PQ, comme tu l'appelles. Et du coup, on va peut-être laisser la place à la suite, non ?
Ouais.
Donc bah voilà, on se retrouve dans 15 jours. La semaine prochaine, ce sera Angle Mort. Eric, il reviendra faire une émission. On revient dans 15 jours. Et puis là, bah, pour l'heure, c'est la causerie qui arrive. Et on va faire une petite transition musicale avec Gazelle Twin, c'est ça ?
Oui, Antibody.
Antibody. Et donc, c'est sur celui-ci. Bah, bonne soirée, à bientôt. Salut.
Salut.
Au revoir.
Salut.
To your family, suffering the most, I hope.